Chapitre 17. Les mutilations du traité de Versailles. Suite. Mutilations financières. Le traité est signé le 28 juin 1919. Charte de l'avenir, il doit être considéré comme intangible par les vainqueurs s'ils désirent que les vaincus en exécutent les stipulations. Or, dès le 28 mai 1920, un président du Conseil déclare à la tribune de la Chambre des députés que le texte en est plus lourd de promesses que de réalité. Qui s'étonnerait dans ces conditions que les Allemands aient cherché sans tarder à éluder les plus importantes de leurs obligations? L'histoire des 10 dernières années est une suite de renoncements de la part des Alliés, de succès pour le vaincu. Je n'établirai pas le bilan, mais je dois montrer ce qu'il est advenu de ces deux questions primordiales, les réparations, le désarmement de l'Allemagne. On se souvient des pénibles discussions d'où sortit le traité de Versailles. Sur aucun point peut-être, sauf en ce qui concerne l'occupation rhénane, la thèse des négociateurs anglais et américains ne s'écarta autant de la nôtre que sur la question des réparations. Les négociateurs anglais et américains disaient « L'Allemagne n'est capable de payer que si elle se relève, que si son crédit est restauré. Il est indispensable qu'elle connaisse l'étendue de ses obligations. Et naturellement, moins celles-ci seront fortes et plus facile sera le règlement. » Nous disions-nous, l'Allemagne doit réparer intégralement les dommages matériels qu'elle a fait subir aux personnes et aux biens. On n'aura pas réalisé une paix de justice si ce principe n'est pas reconnu. Or, il est absolument impossible, si l'on ne veut pas retarder indéfiniment la conclusion du traité, d'essayer de déterminer le coût des réparations. La thèse française triompha enfin d'une proposition de forfait présentée par les anglo-saxons et nos négociateurs purent faire inscrire dans le traité, articles 231 à 244, l'obligation pour l'Allemagne de réparer intégralement les dommages matériels qu'elle avait causés aux personnes et aux biens. Ce triomphe fut de courte durée. M. Keynes, qui, devant l'échec de la thèse britannique, avait, en juin 1919, donné sa démission de conseiller technique de la délégation anglaise, publiait l'année suivante un livre à grand tapage, « The Economic Consequences of the Peace », où il prétendait établir que la prospérité mondiale était subordonnée à la prospérité allemande et que l'Europe connaîtrait un désastreux déséquilibre économique tant que l'Allemagne aurait à remplir des obligations dépassant sa capacité de paiement. C'est alors que s'ouvrit la conférence de Hitt, 15 et 16 mai 1920. Monsieur Lord George, très impressionné par le livre de Monsieur Keynes, n'eut pas de peine à gagner à la thèse du forfait notre président du Conseil, Monsieur Millerand. Ce fut le premier abandon. On n'était point encore habitué à de tels renoncements. Monsieur Poincaré résigna ses fonctions de président de la commission des réparations. Son départ signifiait que, moins d'un an après la signature du traité, la commission des réparations était dessaisie de sa tâche la plus importante et que les thèses rejetées par les négociateurs français du traité étaient admises par leurs successeurs. En mai 1921, la conférence de Londres fixa à 132 milliards de marks or la totalité de la dette allemande. Sur ce chiffre, la France devait recevoir 52%, soit 68 milliards de marks or. Ce chiffre avait bien été établi par la commission des réparations, mais sur l'injonction des gouvernements alliés. C'était un concordat que les nations créancières consentaient aux débiteurs défaillants, et il représentait pour la France un sérieux abattement de sa créance. L'évaluation faite l'année précédente avait fixé le coût des dommages à réparer pour la France seule à 136 milliards de marks or. À supposer même ce chiffre trop élevé, messieurs Briand et Loucheur, dans leur discours des 5 et 8 février 1921, donnaient celui de 110 milliards de marks or. Par le jeu des moratoires, des réductions d'intérêts, la somme prévue était, en janvier 1922, si nettement diminuée qu'à cette date, le président du Reichstag pouvait proclamer qu'en 2 ans, l'Allemagne avait fait réduire de 40% les obligations financières que lui imposait le traité de Versailles. Et ce n'était pas tout. La commission des réparations avait établi un état de paiement. On ne le considéra pas comme intangible. Je lis dans une dépêche de M. Poincaré à M. de Saint-Aulaire, ambassadeur à Londres, 20 juin 1923, « La dette allemande a été fixée d'une manière définitive pour l'ensemble des alliés au 1er mai 1921, comme le voulait le traité. Nous n'y pouvons rien changer. » Il n'en est pas de même de l'état de paiement, c'est-à-dire des échelonnements indiqués par la commission des réparations pour le paiement de la dette allemande. Là, des modalités peuvent être admises par la commission des réparations pour ajourner certains paiements. Par conséquent, de 136 ou 110 milliards de marques or, la somme que nous étions en droit d'attendre de l'Allemagne était, grâce à M. Briand, auteur responsable des décisions de Londres, tombée à 68 milliards. Et grâce au même M. Briand, ces 68 milliards, nous ne savons pas quand l'Allemagne nous les paiera. Car nous avons appris, hélas, que pour le Reich, ajourner un paiement, c'est le différer indéfiniment. Telle fut la politique que M. André Tardieu a appelée la politique du chien crevé. La créance a été fixée forfaitairement et a été considérablement abaissée. Au cours des années qui vont suivre, elle va pourtant être encore l'objet d'une série de diminutions. Et d'abord, quel fut le résultat des accords de Londres? Les défenseurs de ces accords et du forfait de 132 milliards de marques or avaient fait valoir l'intérêt pour la France d'un règlement définitif et de paiements immédiats. Qu'en advint-il? Un premier milliard de marques or devait être versé avant le 1er août 1921. La France n'en touche à rien. 450 millions allèrent d'abord à l'Angleterre, comme remboursement de ses frais d'occupation. Le solde revenait à la Belgique en vertu de sa priorité. Nous ne recevions rien parce qu'on imputait à notre solde la valeur des mines de la Sarre. Le 15 janvier 1922, l'Allemagne devait payer 400 millions. Le 14 décembre 1921, le chancelier Wirth prévint la commission des réparations qu'il ne pourrait verser que 150 millions de marques. La commission des réparations refusa d'examiner la requête. Mais que firent les gouvernements? M. Lord George remettait à la conférence de Cannes, janvier 1922, un mémorandum dont il faut reproduire ces lignes. La commission exprime l'avis que la désorganisation financière de l'Allemagne, qui se manifeste extérieurement par la chute catastrophique du mark et par la demande du gouvernement allemand de certains adoucissements en matière de réparation, est si grave qu'il est impossible pour l'Allemagne de satisfaire pleinement, durant l'année 1922, aux échéances de l'état des paiements. Toute tentative faite en vue d'imposer un paiement intégral en 1922 aurait pour unique conséquence d'aggraver la crise économique dont souffre actuellement l'Europe. Et M. Briand, toujours lui, déclare au Parlement que le malaise dont souffre le monde ne se dissipera pas sans un grand effort de solidarité internationale. Il y a tout de même en France un sursaut d'indignation. M. Briand doit quitter le pouvoir. La conférence de Gênes, qui se tint en avril 1922, ne marqua pas, à proprement parler, de concessions nouvelles, mais ce fut une étape décisive parce qu'on y sentit que le lien entre les alliés était complètement relâché. L'Allemagne, pour la première fois, siégeait à une conférence sur un pied de parfaite égalité avec les alliés et elle y fut soutenue par l'Italie et par l'Angleterre. Il s'ensuivit le traité de Rapallo que le Reich eut l'audace de conclure avec les Soviets et qui faisait perdre au traité de Versailles encore un peu plus de sa force. La France laissa faire. La fin de l'année 1922 fut occupée par de vaines discussions entre l'Angleterre et la France. La première était disposée à accorder 4 années de suspension de paiement purement et simplement. M. Poincaré, lui, soutenait la thèse « pas de moratorium sans gage ». La conférence de Paris, janvier 1923, n'arrangea pas les choses. Les négociateurs restèrent sur leurs positions respectives. Et la Ruhr fut occupée. Cette opération, à laquelle il fut procédé par la Belgique et par la France, sans l'Angleterre et même contre elle, n'arrêta pas à la chute de nos possibilités de réparation. Et quand, le 26 septembre, l'Allemagne eut renoncé à la résistance passive, il fallut bien se remettre au régime des conférences et des réunions d'experts. Des comités se constituèrent. Leur siège fut fixé à Paris. Mais, et ce fut la grande innovation, la présidence de l'un de ces comités fut confiée au général Daus, celle du second chargée de déterminer la somme des capitaux allemands qui s'étaient évadés de l'étranger, un Anglais, M. McKenna. Le jugement arbitral des questions de réparation va devenir l'apanage des anglo-saxons. Le plan Daus auquel on aboutit n'est pas sans respecter, en une certaine mesure, les droits de la France. Il reconnaît qu'il est juste et nécessaire de maintenir le principe du traité de Versailles, d'après lequel les paiements de l'Allemagne doivent augmenter à proportion du relèvement éventuel de sa prospérité. De plus, il comporte un contrôle et des garanties. Au point de vue pratique et purement financier, le plan Daus a été régulièrement appliqué. La première annuité normale, dont l'échéance était 1928-1929, a été réglée sans difficulté. la France a reçu 434 milliards de marques or en espèces et 580 millions en marchandises. Au point de vue politique, les conséquences furent désastreuses. D'abord, l'application du plan Daas marqua une sorte de reprise de la politique chère à M. Briand. Les questions à régler avec l'Allemagne passèrent du plan interallié au plan international. La Société des Nations était désormais chargée de traiter la question du désarmement. Les pouvoirs de la Commission des réparations tombèrent presque entièrement aux mains de l'agent général des paiements, qui naturellement fut un Américain, M. Owen Young, puis de M. Parker Gilbert. Les États-Unis devenaient arbitres pour tout ce qui touchait à l'exécution d'une des plus importantes parties du traité de Versailles qu'ils n'avaient pas ratifié. D'autre part, nous avions accepté d'évacuer la Ruhr et nous avions dû prendre l'engagement de ne jamais troubler le jeu du plan Daas par rien qui pût apparaître comme portant atteinte à l'intégrité économique du Reich. C'était nous lier les mains pour jamais et renoncer, du même coup, à notre entière indépendance ainsi qu'à l'exercice des droits que nous conférait le traité de Versailles. Pourquoi du plan Daas est-on passé au plan Young? L'intérêt des Allemands est évident. À partir de l'année 1828-1829, la part contributive du budget allemand à l'annuité établie par le plan Daas devait plus que doubler et représenter exactement la moitié de cette annuité. En outre, à dater de 1929-1930, l'indice de prospérité avait à jouer et était susceptible d'augmenter dans de notables proportions les versements à réclamer de l'Allemagne. Le remplacement du plan Daas par le plan Young fut, comme il fallait s'y attendre, favorisé par M. Parker Gilbert lui-même, l'agent général des paiements, dont l'idéologie vint puissamment au secours de la mauvaise foi allemande. Relisons les conclusions de son rapport de 1928. Essentiellement, l'œuvre du plan Daas a été de rétablir la confiance et de permettre la mise en marche de la reconstitution économique de l'Allemagne. Mais les experts eux-mêmes n'ont pas préconisé le plan comme une fin en soi. J'estime que le problème fondamental qui reste à résoudre est la détermination définitive des obligations de réparation de l'Allemagne. Et pour mesurer les pertes qu'impose à la France la substitution du plan Young au plan Daas, il suffit de rapporter les termes de l'exposé fait à La Haye par notre ministre des Finances. Au cours d'un de ces entretiens auxquels M. Snowden ne sut donner un ton d'une courtoisie si particulière, M. Chéron rappela notamment que, sous le régime du plan Daas, la France devait recevoir des sommes sur lesquelles, après le règlement de ses dettes, subsistait un solde variant de 913 millions de marques or en 1929-1930 à 673 millions en 1934-1935, solde qui ne tombait pas au-dessous de 510 millions de marques or durant une période non déterminée, mais sûrement de plus de 37 ans. Or, avec le plan Young, le solde de la France se trouve réduit à 420 millions de francs or pendant 37 ans. Toute hypothèque, tout contrôle sont abandonnés. Le jour où l'Allemagne refusera de continuer ses paiements en espèces, nous aurons pour seule ressource de protester auprès de la Société des Nations ou d'organismes internationaux qui, on l'a vu au cours des dernières années, n'ont qu'un but, faire oublier que la France a vaincu. Supposons même que le plan Young soit intégralement appliqué. La France n'aura retrouvé que 133 milliards de francs sur les 915 que la guerre lui a coûté. Et le plus tragique est qu'il nous a fallu acheter le plan Young, non seulement par la ratification des dettes de guerre, mais aussi par l'évacuation anticipée de la rive gauche du Rhin. Avec l'adoption du plan Young, la question était-elle réglée? Lisons cet article du Berliner Tagesblatt que reproduit le Temps du 16 juin 1929. Au traité de Versailles a succédé le diktat de Londres, à celui-ci le plan Daas, au plan Daas le plan Young. Bien des milliards sont restés sur le carreau. Il n'est pas nécessaire que le plan Young marque le terme de ces réductions. Lisons encore ce que M. Georges Bernhardt, député démocrate au Reichstag, écrit dans la Gazette de Voss. Le plan Young ne signifie pas que le dernier mot ait été dit dans la question du règlement des réparations. Il peut être considéré comme un progrès seulement, en tant qu'il indique le chemin à suivre dans un avenir prochain pour l'ultime et véritable liquidation de la guerre. Et qu'entend M. Georges Bernhardt par « véritable liquidation de la guerre » Il s'agit tout simplement de l'annulation radicale de toutes les dettes de guerre. D'ores et déjà, travaillistes d'outre-Manche et politiciens d'outre-Rhin se rencontrent pour la préconiser. La France supportera définitivement le fait des ravages de son territoire. Quelle conclusion à tirer de tout cela? Le gouvernement français, dans le mémoire remis par lui à la Commission des réparations en janvier 1921, estimait les dommages causés par l'Allemagne aux biens et aux personnes en France à 136 milliards de francs or. En mai 1921, déjà, il n'était plus question que de 68 milliards de francs or. Combien la France a-t-elle touché de l'Allemagne jusqu'à présent? 3 milliards 112 millions de marques or. Ce chiffre est donné par M. Poincaré dans son discours du 12 juillet 1929. Le plan Young accorde à la France 18 milliards 737 millions de francs or, ce qui, s'ajoutant aux sommes perçues jusqu'à présent, représenterait pour la France un encaissement total d'environ 22 milliards de marques or. De 136 milliards de marques or, on est tombé à 22, soit le sixième du chiffre consenti. De Versailles à La Haye, que de faiblesse. L'article 233 du traité et ses annexes fixaient les pouvoirs de la commission des réparations. Qu'en est-il advenu? Tout report total ou partiel de la dette allemande devait être voté à l'unanimité, ce qui garantissait nos droits. Le plan Young autorise l'Allemagne à déclarer de son propre chef et sans demander préalablement l'approbation des pays créanciers qu'elle ajourne ses paiements. Un comité consultatif spécial se réunit alors. Ses membres sont désignés, non par les gouvernements, mais par les banques d'émission de 7 pays, y compris les États-Unis et l'Allemagne elle-même, qui y aura droit de vote. Il n'est plus question d'unanimité. La bienveillance des experts du comité Young à l'égard de l'Allemagne va jusqu'à nous faire partager avec elle le bénéfice éventuel de tout abattement des dettes que consentiraient les États-Unis d'Amérique à leurs anciens associés. Pendant 37 ans, on lui rétrocédera les 2/3 de la remise nette disponible. Pendant les 22 années suivantes, on lui fera cadeau de la totalité. Il y a mieux encore. Dans le rapport Young, je lis, s'agissant de l'Allemagne, « La réduction importante de la contribution budgétaire, si on la compare avec celle du plan Daus, permet de reprendre immédiatement le programme de réduction d'impôts en cours depuis 1924. » Le comité exprime l'espoir que de nouvelles réductions d'impôts et un règlement définitif des réparations contribueront fortement à accroître l'épargne et à favoriser la formation de capitaux. Les rédacteurs du traité n'avaient certes pas ainsi compris les choses. Ils avaient chargé la commission des réparations d'examiner le système fiscal allemand de façon à acquérir la certitude qu'en général, il est tout à fait aussi lourd proportionnellement que celui d'une quelconque des puissances représentées à la Commission. Article 233, annexe 11, paragraphe 12b. Évidemment, toutes ces amabilités à l'égard de l'Allemagne s'inspirent de l'esprit de Locarno. Le contribuable français, le mutilé à la maigre pension, le rentier de francs dépréciés, applaudiront-ils à tant de générosité? L'espère qui voudra. Et si l'on me dit concession de haute politique, je réponds « abdication ».